Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Quel est le statut de la parole de Dieu dans nos vies? Les lectures de ce jour nous permettent de nous poser cette question. Les livres saints que nous lisons dans nos liturgies ne sont pas de simples livres. Ils sont saints parce qu'ils contiennent pas simplement des récits racontés par la parole des hommes, ils sont saints parce qu'ils contiennent réellement la parole de Dieu. Et on le voyait dans la première lecture, combien le peuple avait de révérence vis-à-vis du livre de la loi qui était lu par Esdras. On acclame la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, finalement, que nous acclamons. C'est quelqu'un. La parole de Dieu, Dieu lui-même. Et saint Luc, qui commence son évangile pour l'excellent Théophile, dit « J'écris ce récit sur les témoignages de ceux qui furent les témoins oculaires et les serviteurs de la parole. Et la parole, c'est le Verbe de Dieu, le Christ fait chair, celui qui revient à Nazareth, qui ouvre le livre, qui lit un passage du prophète Isaïe et qui dit « Cette parole n'est pas une parole du passé, cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Et chaque dimanche, nous devrions considérer la parole de Dieu ainsi. La parole que nous entendons chaque dimanche dans nos liturgies, ce n'est pas une parole du passé, c'est une parole pour qu'elle s'accomplisse aujourd'hui. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit et il faut l'accueillir comme telle. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, si vous voulez, faisons l'exercice nous-mêmes et essayons d'accueillir la parole de Paul dans la deuxième lecture. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Et saint Paul le dit très fort, nous sommes le corps du Christ. Le Christ est la tête, la parole du Christ préside à notre liturgie et nous, comme les membres d'un corps, eh bien, reliés les uns aux autres, nous sommes tous reliés à cette tête, à cette parole, pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Quand Jésus prie en disant « que tous soient un », eh bien, la prière de Jésus, c'est pour qu'elle se réalise dans nos vies. Et nous ne pouvons pas venir communier si nous n'avons pas le désir que la parole de Dieu, cette parole qui nous invite à l'unité, s'accomplisse dans nos vies. Et c'est ça la prière pour non seulement l'unité des chrétiens, mais pour l'unité du genre humain. Et qu'on soit juif, chrétien ou musulman, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le Nouveau ou le Coran, eh bien, nous croyons en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, dont Jésus nous dira qu'il est Père. Et si Jésus nous dit qu'il est Père, ce Dieu-là, ce Dieu d'Abraham, c'est pour que nous prenions conscience que nous sommes tous frères et que nous avons donc à former un seul corps, pas simplement entre les personnes de même religion. Et déjà, malheureusement, les chrétiens ont fait l'expérience que c'est pas si simple déjà de faire l'unité entre chrétiens. Alors évidemment, faire l'unité avec les juifs et les musulmans, on pourrait se dire c'est une autre paire de manches. Mais pourtant, c'est la volonté du Christ. C'est la volonté de la tête. Et si nous sommes des hommes religieux, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, ça veut dire que notre désir profond, c'est d'être relié. Religion, religieux, être reliés les uns aux autres, comme les membres de notre corps sont tous reliés les uns aux autres et ils sont commandés par la tête. C'est ça, l'unité. Alors vous comprenez, quand on parle de guerre de religion, on est dans une contradiction maximum, puisque vraie religion qui se respecte devrait viser l'unité du genre humain. Non pas en se disant « je vais convertir les juifs » ou « je vais convertir les musulmans pour qu'ils deviennent chrétiens ». Non. Non. Il ne s'agit pas d'une unité où tout le monde serait semblable. Et d'ailleurs, on le voit bien quand Jésus rencontre des païens dans l'Évangile, lorsqu'il rencontre d'autres croyants tels les Samaritains, jamais il ne leur demande de devenir juifs. Il n'y a pas ça dans l'Évangile. Et à la Samaritaine, il dit, alors que la Samaritaine justement lui pose la question, quelle est la bonne religion ? La nôtre, celle des Samaritains, ou la tienne, celle des Juifs ? Ben, Jésus lui dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et il aurait pu rajouter, comme nous le dit saint Paul ce soir, eh bien, par ce même esprit, eh bien, les vrais adorateurs, de fait, formeront un seul corps. Et vous savez, quand vous rencontrez des juifs mystiques, quand vous rencontrez des musulmans mystiques, quand vous rencontrez des chrétiens mystiques, quand vous rencontrez des bouddhistes ou des hindous mystiques, eh bien, tout de suite, vous vous sentez frères. Parce que les vrais adorateurs, quelle que soit la religion, les vrais adorateurs, quelle que soit la religion, ont toujours le sens de l'autre. Ils ont une vision complètement élargie de l'humanité tout entière qui doit être rassemblée dans le même amour. Et si nous, nous disons que Dieu est amour, eh bien, tous les autres grands mystiques des autres grandes religions disent la même chose, que Dieu est amour. Et c'est ça le plus important. Et c'est lorsqu'on arrivera à concevoir que Dieu est amour et qu'il n'est que ça, quelle que soit notre religion, eh bien, c'est lorsqu'on aura cette conception-là de Dieu que nous serons capables de nous embrasser les uns les autres. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas juif, Dieu n'est pas bouddhiste, Dieu n'est pas hindou. Dieu est amour, Dieu est mystique. C'est ça la vérité. Et c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter pour aller vers l'unité, pas simplement des chrétiens, mais l'unité du genre humain. Et c'est ce que dit saint Paul, c'est dans un unique esprit, c'est dans un unique amour, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, que nous tous, eh bien, nous avons été désaltérés par un unique esprit, et le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le corps divin, le corps de Dieu, et chacun pour sa part est membre de ce corps. Et c'est pour ça qu'au début de cette célébration, je vous ai demandé bien de vous regarder, de vous saluer les uns les autres, quelles que soient vos sensibilités, votre histoire, vos opinions politiques, vous dire « mon voisin, ma voisine fait partie du même corps que moi ». Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. Et il faut sortir, je le disais jeudi, de cette culture, vous voyez, de l'opposition permanente, de cette culture de la concurrence. où finalement, la plupart du temps, spontanément, quand on rencontre des gens différents, eh bien, on est d'abord contre, plutôt que d'être pour. Et c'est ce qui fait que nos sociétés sont difficiles à vivre aujourd'hui. Nos sociétés sont difficiles à vivre parce qu'on est toujours dans cette culture de la division, dans cette culture de l'opposition, dans cette culture de la concurrence, pour savoir qui est le plus fort, pour savoir qui a raison, pour savoir... Voilà. Eh bien, Jésus nous dit l'inverse. À ceux qui veulent être premiers, dit Jésus, eh bien, qu'ils soient d'abord derniers. C'est ça, la mystique. La mystique, c'est l'humilité. À chaque fois que je suis devant un frère, je le considère comme plus grand que moi. Alors que la culture du pouvoir, de la concurrence, eh bien, c'est de toujours être plus grand que son voisin pour l'écraser. Et on rejette. Alors c'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de ce jour, dit que le passage qu'il lit du prophète Isaïe se réalise aujourd'hui. De qui parle-t-on dans ce passage ? Des captifs, des aveugles, des opprimés, des pauvres, de ceux qui justement sont toujours rejetés du corps entier. On n'en veut pas de cela, des immigrés, on n'en veut pas de cela, ils ne font pas partie de notre corps. Voyez. Nous faisons des rejets, voilà. Nous ne croyons pas que les greffes peuvent prendre. Eh bien, Jésus dit, moi je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que les greffes peuvent prendre et que le corps peut s'agrandir dans l'unité en s'agrégeant des membres nouveaux, des pauvres, des captifs, des aveugles, des opprimés. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Mais il ne s'accomplira que si vraiment nous accueillons cette parole, évidemment, pour la mettre en pratique dans nos vies. Alors soyons ardents pendant cette messe à prier, non pas seulement pour l'unité des chrétiens, mais pour l'unité du genre humain, comme on le dira dans la préface de cette messe.